What'd you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am certain. I don't want to.
Je n'ai pas besoin de lumière, je suis aveugle. Compte jusqu'à 3 et essaie de l'attraper.
1, 2, 3. Mais comment?
Je n'essaie pas de gagner, mais d'arriver à un parfait contrôle de moi-même afin de me débarrasser de ma peur des balles. Tire! Je ne saigne presque plus. Je n'offre aucune résistance aux balles. Je les laisse traverser les espaces vides de mon corps. Désires-tu toujours te battre contre moi?
Oui.
Peu m'importe de te tuer parce que je sais que la mort n'existe pas. Je vais te laisser tirer le premier.
Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Willkommen! Bienvenue! Bonsoir, chers auditeurs. Et oui, on se retrouve en ce mercredi soir. Il est 18h et vous êtes en train d'écouter Arrête ton cinéma. Voilà. Nous sommes sur les ondes bénéfiques, intelligentes, rassurantes de RDIWA 107.5 FM. Et, bien sûr, pour la petite anecdote, vous pouvez retrouver cette émission comme toutes les autres sur le broadcast éternel du www.rdiwa.fr. Émission thématique, lettre A comme Arrête ton cinéma. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, quand je prépare cette émission, des fois j'ai des idées et puis des fois j'en ai pas.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que les géants paraissent brillants avant d'avoir l'air corne.
Alors on scrute, on regarde un petit peu comme ça sur le net, des idées ou alors sur des magazines. Et puis il y a des fois, on regarde chez soi et on se dit, bah tiens, j'ai un tas de DVD, qu'est-ce que je vais faire? Alors je suis tombé sur un coffret que j'ai d'Alexandro Jodorowsky. Et je me suis dit, bah voilà, ce serait sympa de faire un petit truc sur Jodo. Parce que Jodo, certes, c'est des films comme El Topo, mais c'est aussi des bandes dessinées. C'est aussi des livres, des romans, et c'est aussi le tarot de Marseille. Et puis, quand j'ai commencé un peu à faire mes recherches sur ce cher Jodo, je suis tombé sur un petit truc qui était pas mal. Les Midnight Movies. Alors, vous me direz, les Midnight Movies, certes, quid, qu'est-ce? Eh bien, en fait, tout vient d'un petit phénomène des années 50. En fait, c'était des films à un petit budget. Enfin, des petits trucs un petit peu à la va-vite et qui étaient, pour l'occasion, diffusés plus tard dans la soirée, dans des cinémas ou même à la télé. Hein, et elles se tenaient toutes entre elles pour un simple fait aussi, c'est qu'elles défiaient par leur univers kitsch, leur univers trash, provoquant, grotesque, à la limite même du mauvais goût. Toutes les productions, bon ton, bon genre, d'Hollywood. Toutes les super productions. Alors, leur diffusion marche avant tout grâce aux bouches et à l'oreille. Aux bouches à oreille. Voilà. Il y a très peu de publicité. Si ce n'est évidemment les critiques que font les journalistes dans leurs journaux propres. Ouais, c'est du terme ça. Hein. C'est un circuit idéal pour un film qui va devenir culte. Voilà, le Rocky Horror Picture Show a ainsi muté le genre, ainsi qu'évidemment le changement dans les années 80. Parce qu'en fait, tout ce phénomène a lieu dans les années 70. Et ça va tourner autour de quelques films surtout. On dira peut-être même une dizaine. Hein. tout au plus. Après, il y a évidemment tout plein d'autres, mais c'est ceux-là qui vont vraiment rester dans l'histoire, notamment 5-6, suivi de quelques autres. Alors là, je les ai fait en ordre chronologique, hein. Après, on en parlera plus longuement. Alors, le premier, c'est La nuit des morts vivants, de George A. Romero, qui est né en 68. Le film, hein, pas le Romero. El Topo d'Alejandro Jodorowsky, donc, en 70. The Harder They Come, de Perry Anzell, en 72. Pink Flamingo, de John Walter, en 72. The Rocky Horror Picture Show, de Jim Sherman, en 75. Et en finale, Eraserhead, de David Lynch, en 77. Alors, certes, on peut aussi citer The Wall, d'Alan Parker, le film sur les Pink Floyd. Harold et Maude, d'Al Asby, en 71, donc l'histoire d'un jeune homme de 19 ans qui ne cesse de vouloir se suicider et qui va rencontrer une jeune idéaliste de 79 printemps. Les images dès le départ sont assez rigolotes. Le jeune homme va pour se pendre. En fait, on voit que ses jambes, mais on voit que, ma foi, il est pendu dans le vide. Sa mère arrive, le regarde et va répondre au téléphone qui est en train de sonner en disant que voilà, qu'il arrête de faire ses bêtises. Et voilà, puisque monsieur est en train de simuler évidemment son suicide. Il y a aussi un autre film qui va revenir souvent, c'est The Reefer Madness de Louis Gasnier, qui est un film de 1939 pour l'occasion. C'était une commande de l'église et c'était fait surtout pour montrer les méfaits du cannabis. Et ça, dans tout ce que sera le phénomène Midnight Show, Midnight Movies, en fait, on va pas mal glisser ce film, ainsi que des extraits, des petits passages, ainsi qu'aussi le fameux Bambi rencontre Godzilla. Voilà, c'était vraiment des petites séquences. Il y a un autre film aussi qui va être un peu à la genèse, notamment du mouvement des Midnight Movies. C'est ce qu'on appelle La monstrueuse parade de Todd Browning en 1932, qui pour l'occasion a un autre nom qui s'appelle Freaks. Voilà, le Freaks chic, non, c'est pas le même. En fait, c'est Freaks, c'est tout ce qui est monstrueux. Voilà, c'est ceux qui sont atteints de nanisme ou c'est de déformation physique. Et David Lynch en fera un hommage, notamment dans son film Elephant Man, évidemment. Et il y a aussi beaucoup de monstres physiques dans ce qui est l'œuvre aussi d'Alejandro Jodorowsky. Mais ça, on en parlera plus tard. Il y a aussi, plus proche de nous, en films qui font aussi partie de ces Midnight Movies, Donnie Darko de Richard Kelly en 2001, The Room de Tommy Wiseau en 2003. Alors, The Room est vraiment un film à part, parce qu'il est considéré techniquement comme l'un des films les plus nuls, hein, voilà, les plus nazes.
Des fois, moi, je vomis.
Alors, en fait, ce qui fait son succès, c'est qu'il est tellement naze qu'il fait rire, mais involontairement. Je veux dire, il n'y a pas de gag. C'est vrai que ensuite, Tommy Wiseau va dire oh, « Oui, oui, non, mais j'ai fait exprès », alors qu'il n'en est rien du tout. Il faut savoir que Tommy Wiseau est l'acteur principal, le producteur, le scénariste, le réalisateur. Donc forcément, il en découle surtout un ego démesuré, hein, puisque évidemment, notamment le personnage se fait encenser tout le long du film. Et même l'affiche, en fait, c'est le visage de Tommy Wiseau. Donc voilà, c'est pour vous dire que Tommy Wiseau, hein, voilà, c'est pour dire. Donc on va commencer évidemment toute cette œuvre, voilà, des Midnight Movies, et qui ont en fait surtout tourné autour d'un théâtre cinéma, qui était l'Elglin, voilà, qui était donc à l'angle de la 19e et de la 8e rue, la 8e avenue, évidemment dans la ville de New York, et oui, on n'y échappera pas à New York, hein. Voilà, et qui était tenu par Ben Barenholtz, voilà, et qui a notamment soutenu tout cette mode, ce phénomène des Midnight Movies, puisque c'était vraiment un univers underground, et voilà, et c'est vrai que quand Jodorowsky a présenté son El Topo au printemps 1970, Bah, ma foi, il s'est pas fait pas mal moquer de lui, notamment tout ce qui était, puisque même s'il est d'origine chilienne, il est passé par le Mexique, et évidemment, tous les Mexicains se foutaient un peu de sa gueule en disant, ouais, bon, alors, Jodo, t'es sympa, mon gars, mais, comment te dire, un film mexicain hors du Mexique, c'est vraiment débile. Alors, on va le présenter évidemment dans un univers plus underground, puisqu'il est quand même assez violent, il y a du sang, on ne cache rien, et puis il correspond à aucun des circuits qui est mis en place par Hollywood, donc forcément on se dit bah on va le passer au cinéma Anglin et on va le passer à minuit parce que évidemment c'est hors des circuits ordinaires, on le passe à minuit. Alors on le passe une première fois un mardi soir, il y a peu de monde, et le mercredi soir par contre c'est une queue folle devant le cinéma. Le bouche à oreille a marché à merveille. On appelle ça, même dans les journaux, on appelle ça le Siddhartha Asiku. Parce que c'est véritablement un univers métaphysique, psychologique. C'est vraiment dans l'univers, comment ça s'appelle, de Jodorowsky, mais ça on en parlera plus dans l'émission qui lui soit consacrée, où tout son univers psychogénéalogie, toutes ses histoires de sacré qu'il contient notamment dans son histoire propre hein, de Jodorowsky, mais aussi dans ce qu'il recherche, puisque en fait El Topo c'est l'histoire d'un bandit et qui n'a pas peur de sa propre violence et qui va en fait se battre contre les plus grands revolvers de l'Ouest. Tout ça dans un désert où il y a très peu de personnages, finalement, pour une femme. Et il va réussir à battre tous ces grands as de la gâchette, mais pas que, puisqu'il y a toute une histoire. Attention, c'est recherché derrière, c'est élaboré. Et en fait, voilà, il va tomber en disgrâce et devenir un saint. Voilà, il y a toute une histoire aussi avec le village et tout, les dictateurs et tout. Et puis, pour Jodorowsky, en fait, techniquement, c'était pas vraiment un western, mais c'était un eastern. Voilà, c'est singulier, c'est ésotérique, c'est vraiment très symbolique. Chaque image, il faut. En fait, le succès, c'est que à force de passer, il y a des gens qui vont le regarder 30 à 40 fois, puisque en fait, l'Elgin n'a que 600 places, voilà. Mais pendant 6 mois, ça va être à l'affiche 7 jours sur 7. Ça va marcher du tonnerre de Dieu. Dennis Hopper et Peter Fonda vont venir le voir, et ainsi que toute la bande à Warhol. Hein, c'est les pré-années punk, évidemment, les gens sont en train de rechercher, puisque c'est la chute des années 60, on est en recherche d'autres choses. Et évidemment, ce film est contraire au système, puisqu'on n'est plus dans le. Puisque, rappelez-vous, le western, c'était vraiment l'âge d'or du cinéma américain, et là, Jodorowsky est en train de le bouleverser entièrement. Il y a des scènes lesbiennes, il y a des monstres, il y a tout un univers aussi, l'église est moquée, donc voilà, il y a vraiment vraiment un truc, évidemment tout le côté monstrueux que Jodorowsky adore, puisque lui il dit que ça fait partie de la vie, toutes ces histoires de monstres, et voilà. Et on sait que John Lennon et Yoko Ono sont venus au moins deux fois voir le film, et là tellement ça lui plaît, John Lennon achète le film. Voilà. Et il est retiré de l'Anglin. Et on va le passer au Times Square. Alors là, c'est la première grosse erreur. Parce que de passer un film pareil dans un grand cinéma, ça va pas le marcher. On va le passer 5 fois par jour à partir de 10h du matin. Et là, au bout de 3 jours, c'est l'échec. Personne ne veut le voir. Parce que ce qui marchait aussi au Anglin, c'est que c'est un cinéma hippie. Et qu'en fait, les gens, quand ils venaient, ben ils fumaient. Et ils fumaient pas du tabac. Voilà. C'est surtout ça. Donc, ils étaient dans un état second pour voir ce film. C'est-à-dire que dans ce mouvement du Midnight Movie, tout ne se passe pas que sur l'écran. Ça se passe aussi dans la salle. Et ça, dans un grand cinéma, bah, ça peut pas marcher. Donc voilà. Donc c'est la chute de El Topo, mais il aura été le précurseur de ce que sera le Midnight Movie, parce qu'évidemment, le grand Ben, comme on dit, Ben Barenholtz, sent qu'il y a quelque chose à faire de tout ce cinéma autre, qui est hors des circuits, et il va continuer, puisque évidemment, El Topo a fait le grand succès que Jodorowsky, du jour au lendemain, est devenu une star. Évidemment, El Topo est devenu un film culte. Et ce sera de même avec La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero. Parce que les films d'horreur existaient avant Romero, ça d'accord. Mais la force de Romero, c'est de mettre un message politique dans ces films d'horreur. Parce que là, on est en pleine déception des années 60. Évidemment, il y a un très peu budget. Je crois qu'ils avaient, je crois, 600 à 6000 dollars, puisqu'ils avaient loué une ferme. Et je pense qu'il y avait même une histoire de partie d'échecs pour gagner encore plus de sous. Voilà, George Romero fait son film, le monte et amène la copie à New York. Et là, dans la radio, pendant qu'il est en train d'arriver à New York, il entend l'assassinat de Martin Luther King. Voilà. On est en 68. C'est l'année la plus violente aux États-Unis. Et là, le personnage principal de ce film est noir. Et excusez du spoiler, mais il meurt à la fin. C'est un film très pessimiste. Voilà, il est forcément démoli par la critique, parce qu'on le considère comme un film d'horreur au rabais, ou même balancé avec toute la connotation qu'il porte dans ces années-là comme un film de la blaxploitation. Les gens ne croient plus à rien. Et là, La Nuit des Morts Vivants, c'est pas possible. Donc, on va en 71, le passé, ce qu'on appellerait pour nous autres le cinéma de minuit, le Midnight Movies. Et c'est vrai que dans toute cette vague où la jeunesse se sent impuissante face au gouvernement américain, ils vont tous commencer à se rallier à minuit dans les cinémas pour la recherche d'une création d'un nouveau monde. Et c'est là que ça va commencer, puisqu'évidemment, ça va brasser tout plein de thèmes, et notamment Romero continuera, mais ça, on en avait déjà parlé dans une émission, de tout le mouvement politique à travers ses films. Voilà. On continue. On a fait El Topo, on a fait La Nuit des Morts Vivants, et je vais vous laisser avec un petit moment musical, parce que on blablate, mais Go On The Music avec un groupe qui marchait bien à cette époque-là, The Stooges, vous connaissez, hein, avec Iggy Pop. Voilà, je vais vous laisser I Wanna Be Your Dog. êtes toujours sur le 107.5 FM. Voilà, et pour la petite histoire, quand les Sex Pistols ont fait leur première audition, et ben voilà, c'est cette chanson-là qu'ils ont fait effectuer. Voilà, I Want to Be Your Dog des Stooges avec Iggy Pop. Alors, John Walters, lui, est un homme qui vient de Baltimore. Il va présenter son multiple maniacs en plein période Peace and Love. En fait, c'est l'histoire d'une drag queen qui tue des gens et qui mange leurs entrailles et qui se fait violer par un homard géant. Donc forcément, le film est refusé par la New Line. John Walters va aller au procès de Manson, Charles Manson, hein, celui qui a tué la fameuse femme de Roman Polanski. Enfin, pas directement, lui il n'a pas touché au couteau, mais sa famille, sa secte l'a fait. Pour John Waters, l'Amérique est en train de devenir folle. Les hippies ont viré toxico et Deep Throat, gorge profonde, est à la mode. Il va écrire un nouveau film, un nouveau scénario, Pink Flamingo, avec le queer divine. Alors, il va le réaliser avec évidemment très peu de budget, il ne sait rien du tout au montage, donc il va se compliquer la vie, il est dans des conditions atroces de froid, ça va même geler, la caméra va filmer noir parce que la pellicule n'aura rien retenu, et il sort son film. Le problème, c'est que les distributeurs ne savent pas quoi en faire. Un film, c'est un peu bizarre, un peu violent, complètement de mauvais goût. Alors, on va faire la première dans un cinéma de porno gay. Évidemment, Waters n'est pas trop d'accord. Il n'a rien contre la communauté gay, mais c'est pas vraiment vers quoi il estime son film. Donc, il va proposer Langlen, qui est pour lui le lieu idéal, le mouvement, le phénomène Midnight Movie, évidemment, avec le film d'El Topo, a fait parler de lui, et donc John le propose. Il est projeté, après évidemment le retrait d'El Topo, et voilà, il y a une centaine de personnes, et on le propose quand même de le repasser un second soir. Et là, comme pour El Topo, le bouche à oreille, merveille, et hop, la salle est remplie. Évidemment, dans un premier temps, c'est surtout un public homosexuel. Mais ça va s'élargir. Les gens sont quand même choqués par ce film. Hein, parce que c'est vrai que l'histoire, elle est... Alors, voilà, l'histoire, c'est divine. Qui vit avec sa famille dans une caravane, avec un frère qui a un peu des goûts bizarres, elle-même non plus, elle n'est pas non plus, ou il n'est pas non plus, voilà, adepte de la normalité, et les journaux vont dire que Divine, ben voilà, c'est la personne la plus répugnante au monde. Et là, il y a un couple d'êtres affreux, vont être carrément jaloux de ce titre, et vont décider de faire la misère à Divine, parce qu'en fait, eux, ils kidnappent des femmes pour qu'elles se fassent féconder par leur majordome pour vendre les bébés à des couples lesbiennes pour pouvoir ainsi financer leur deal de drogue dans les écoles. Ah ouais, c'est assez particulier. Hein. Et Divine, évidemment, va les attraper et les condamner à mort. Alors, il y a des séquences qui sont assez bizarroïdes. Notamment celle que John Walters va filmer en dernier, celle où la divine mange un excrément de caniche. Alors voilà, ça choque le genre. Mais quand Ben a vu ce film, et tous ceux qui étaient avec lui, ils ont dit ça va faire vendre. Ça va marcher. Et effectivement, ça a marché. Les gens ne savent pas quoi, c'est nouveau. Et là, c'est vrai que John Waters a trouvé le concept, aller jusqu'au bout, aller au-delà de ce qui est permis, de trouver quelque chose qui transgresse, quelque chose qui n'a pas encore sa loi, qui l'interdit. Évidemment, tout ce qui est sexuel, on cache. Mais manger de la merde au cinéma, une tartine de caca. Ça, désolé, pour l'instant, il n'y a pas de prescription. Donc, il a trouvé le bon coup. Mais c'est vrai qu'aussi, dans ce genre de cinéma, on fume. On fume de la Marie-Jeanne. Donc, c'est vrai que ça adoucit un peu les mœurs. Et puis, c'est devenu tellement fréquent dans ce genre de cinéma, c'est fumer, c'est comme se dire bonjour. Et voilà, Andy Warhol est même choqué de ça. Mais voilà, Pink Flamingo va être véritablement le premier gros succès du cinéma Englin et du phénomène des Midnight Movies. On va le commercialiser à travers le pays, jusqu'à Los Angeles, qui sera évidemment le plus gros coup après New York, et même dans certains cinémas, il passera 10 ans. Au fameux cinéma du New Art. On est en recherche d'autres genres, évidemment. On a eu le topo et le métaphysique, Pink Flamingo dans la version trash et underground. Et là, on va arriver avec un film jamaïcain, fait par des Jamaïcains, pour des Jamaïcains. C'est The Harder They Come que je vous avais parlé, notamment dans la session musicale Jamaïque. Ce qu'en français, on nommera le film Tout et tout de suite, de Perry Enzell, avec évidemment Jimmy Cliff, qui est complètement inconnu aux États-Unis. Le film est fait en 73. Le cinéma de minuit est un cinéma rebelle, anti-Nixon, anti-Maison-Blanche et anti-Vietnam. Alors, The Harder They Come est le premier film jamaïcain. La bande originale est une bande originale de fou chantée par Jimmy Cliff. C'est un succès en Jamaïque, notamment dans les premières fois qu'il est retransmis. Eh ben, les gens sont serrés à trois sur un siège et le public ne cesse de hurler du début jusqu'à la fin du film. C'est des hurlements. Mais le problème, c'est que aux États-Unis, ben, ça marche pas du tout. La musique reggae, la vie jamaïcaine n'intéresse pas le public américain. On ne sait pas où le mettre. Et là, de nouveau, The Midnight Movies arrive au bon moment. Parce que pour ce public-là, cette musique est une tuerie. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Persecution you must bear. You've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, don't want it to seem now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Will come your way, but the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Now you can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Try and try. On va entendre cette musique. Les deux fameuses chansons The Harder They Come and Get It If You Really Want et qui vont être à la base du mouvement reggae et Rastafari, eh ben vont passer partout. Dès qu'on va dans un resto, c'est ces deux chansons-là qu'on va entendre. Et le public ne cesse de fredonner ces deux chansons. Le succès du film le doit surtout à sa bande originale. Et évidemment, à l'univers, parce que là, on est en train de filmer un être qui est démuni et qui veut s'en sortir. Parce que l'histoire, c'est l'histoire de ce bandit qui fait un morceau, et ce morceau va devenir une légende pendant que la police est en train de le rechercher. Et là, pour l'occasion, et attention le spoiler, eh ben, il va mourir à la fin. Et là est la grosse question, est-ce qu'un démuni peut accéder aux promesses de la vie? Parce que c'est une illusion, mais pour lui, elle est si forte qu'elle est prête à mourir. Et ça a un gros impact politique. Les gens réagissent à la frustration et à l'impuissance de ce personnage. On est dans les années 70, hein, n'oubliez pas. Hein, tous les hippies, c'est fini tout ça. On va commencer à devenir méchants. On va devenir les punks. Tu vois? No future. Avant, c'était Peace and Love, et là, ça va être No Future. Donc ça, ce film-là, il va être emblématique pour toute une génération. Et puis, la musique, n'oublions pas la musique. Il va tellement bien marcher, ce film, et tellement amené de références reggae, c'est que quand Bob Marley et les Wailers vont débarquer dans les salles aux États-Unis, les salles sont déjà pleines, parce qu'ils savent déjà ce que c'est que le reggae, grâce à ce film. The Harder They Come va être diffusé jusqu'au bout dans l'England, jusqu'en 1977. Voilà. Pour Perry, ça a vraiment été un sauvetage. Hein, Perry Enzel, le réalisateur, ça a été un sauvetage parce que lui, il y croyait fort à son film. Et là, il réunit un cocktail. Le film est bon. Le meilleur moment pour le diffuser, c'est dans ces années-là. Et la musique, elle est bonne. Et il y a surtout une prise de conscience culturelle. Ensuite, va arriver d'Angleterre un autre phénomène. The Rocky Horror Picture Show de Richard O'Brien. Richard est en pleine déprime, il est au chômage, il va sans doute devoir repartir en Nouvelle-Zélande. On lui demande, pour la fin de l'année, de faire une comédie musicale et il va se dire, mais pourquoi pas faire une comédie musicale sur les films d'horreur? Alors, il fait effectivement une comédie musicale qui marche bien et on va faire un disque qui marche aussi très bien puisqu'on est en pleine période glam rock, donc les gens sont déguisés comme des films d'horreur et évidemment ça va marcher. C'est l'époque de David Bowie, on est au début du mouvement punk. La première a lieu à King's Road, dans un cinéma. Donc je résume. Dans un cinéma, on joue un spectacle qui parle de films de cinéma style catégorie Z. Ça tourne en rond. Lou Adler sent qu'il y a quelque chose à faire. Le propriétaire du Roxy, qui était évidemment une place légendaire du mouvement punk. Il va faire une grande première avec les Jagger, Bianca, Lennon. Et puis, on va demander à Jim Sherman de réaliser le film. Ce qui est quand même super pratique, c'est qu'il va le faire avec le noyau de la troupe. Autant vous dire, donc, ils connaissent les rôles, ils connaissent quand il faut chanter, ils savent quoi faire. C'est vraiment un tournage aux petits oignons. Et d'ailleurs, on va laisser chanter Frank Nunfert, qui est joué ici par Tim Curry, donc un mec qui a quand même une sacrée gueule, le clown de ça, de Stephen King. Ça vous dit quelque chose? Et ben voilà, c'était Tim Curry. Et voilà, et il va jouer, évidemment, le transsexuel de Transylvania. Ouais.
How do you do, see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't
don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Right.
Or maybe a bite?
Right.
I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Yeah, voilà. The Transsexual of Transylvania, chanté ici par Tim Curry. Évidemment, la Fox, elle va avoir une seule condition, c'est qu'on mette Suzanne Sarandon et Monsieur Bostwick pour jouer les Américains. Parce qu'évidemment, c'est des Américains qui débarquent, qui veulent aller à un mariage, qui débarquent dans, évidemment, un château isolé. Voilà, vraiment tous les codes de ce qui est considéré comme les séries Z, avec un petit côté un petit peu olé olé, n'est-ce pas ? Voilà, alors, évidemment, on va faire aussi toute la comédie musicale. On va l'amener d'abord aux États-Unis. Et puis on se dit, on passera le film après. Malencontreusement, la comédie musicale est démolie par la critique qui voit évidemment pas le côté rock mais surtout le côté sexuel du show. Et puis, c'est aussi un échec à Broadway. Qui dit échec à Broadway dit échec tout court. Hein. Ça n'aura pas plus lieu. Comment ça s'appelle, les acteurs, les comédiens se regardent et se disent « Bon, ben voilà, on a travaillé 3 ans ensemble et ben voilà, c'est la fin, quoi. » Donc, on va sortir quand même le film à Los Angeles, donc carrément à l'autre côté, pour éviter évidemment tous les journaux new-yorkais. Et c'était aussi un échec. Donc, Lou Adler est complètement dépité. Mais, par contre, la Fox est partie prenante pour qu'il soit diffusé à minuit, dans le Midnight Movies. Donc, c'est programmé en avril. Et c'est carrément la folie à la sortie. C'est diffusé à travers le pays avec le même succès. Le bouche à oreille fait des merveilles, messieurs, dames. C'est la carrément la création d'un fan club qui anime la salle, parce que le spectacle est aussi dans la salle. C'est ça qui est merveilleux, c'est-à-dire que les gens arrivent déguisés, comme dans Halloween. Et voilà, ils font les spectacles, ils font les chorégraphies, ils chantent, ils font les réparties. Voilà, il y a carrément un spectacle. Il y a des gens qui ont vu le film plus de 3000 fois, donc autant vous dire qu'ils le connaissent par cœur. Et voilà, il y a un spectacle qui se fait carrément autour de ce film. C'est la gloire après le flop. Et le public surtout prend pouvoir. Ils n'assistent pas comme des petits moutons à une séance. Non, 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 non. Ils font partie du spectacle. Et c'est ça. Quand on vient voir Richard O'Brien, on dit « Mais vous savez ce qui se passe aux États-Unis avec votre film ? C'est que les gens, ils font carrément des spectacles au milieu. » Et lui, il dit « Bah, si les gens sont heureux de faire ça, why not ? Pourquoi pas ? Au contraire !» À son apogée, plus de 250 cinémas vont distribuer ce film. Et la recette obtenue par The Rocky Horror Picture Show, c'est plus de 175 millions de recettes. C'est un phénomène. Voilà. Et déjà, The Midnight Movie sont en train de chercher ailleurs. Et là, ils vont tomber sans doute sur le dernier phénomène. Et là, on va les amener carrément ailleurs. Parce que c'est vrai que, bon, Jodorowsky, on était en pleine période fumette. Flamingo, on essayait de transgresser les genres. The Harder They Come, c'est carrément aussi le reggae. Et puis, c'est carrément un mouvement international. The Rocky Horror Picture Show, là, c'est carrément la fête. Mais là, on va tomber dans le film culte. Quelque chose, un ovni. C'est Hell's Head de David Lynch. Un film à part. Enfin, vous me direz en même temps, c'est David Lynch, c'est un peu normal. Hein, c'est un film qui est inspiré par Philadelphie et son industrie traditionnelle. Voilà. C'est un homme qui est prisonnier, enfermé dans son quotidien et qui veut tenter de le fuir. Et ça, c'est un sujet récurrent dans les œuvres de David Lynch. On peut s'y en libérer que par la mort, comme dans Elephant Man ou Twin Peaks, soit par la route, dans Sailor et Lula, soit par la folie, comme dans Lost Highway et Mulholland Drive. Alors, c'est vrai que c'est un long tournage, parce que, évidemment, David Lynch avait reçu une immense maison, mais il n'avait pas les fonds pour vraiment tourner. Notamment dans une séquence, on voit Henry qui ouvre une porte et qui rentre dans une pièce. Entre ces deux séquences, il y a plus d'un an et demi. Tellement, il ne pouvait pas tourner David Lynch. Et pourtant, ce qui est très marrant, c'est que le lieu de tournage a lieu à Beverly Hills, en Californie. Donc rien à voir avec Philadelphie et son côté sordide. Enfin, le côté que veut faire ressortir David Lynch. Alors, quand on le visionne pour la première fois, on dit à David Lynch, « Bon, bah, ton film est sympa, mais ce serait cool de le présenter au Festival de Cannes. » Et là, David Lynch fait, « C'est quoi Cannes ?» David Lynch ne connaît pas Cannes. Et oui. Alors, il préfère le présenter au Festival du film de New York. Et là, on le rejette. Non, c'est trop à part, on ne comprend pas. Les spectateurs sont complètement déboussolés. Donc, il va aller carrément voir le festival de Los Angeles. Et il est sélectionné et on va le jouer à minuit. Mais David Lynch, le problème, c'est que lui, il n'aime pas le public. Donc en fait, il va faire les 100 pas en attendant. Dehors, et il va se dire que c'est trop long, il y a trop d'attente. Donc, direct, il coupe 20 minutes du film. Et là, on va le présenter à Englin. Big Ben va le regarder, ils le veulent. Il dit c'est un truc, mais c'est inimaginable, c'est un ovni, c'est pur. C'est un film tactile, on peut presque le toucher, le sentir, parce que le son est très... C'est-à-dire qu'on regarde l'image, mais le son vous dit autre chose. Et c'est un film vraiment, vraiment à part, très peu de paroles et tout. Alors, on va le passer pendant qu'on a encore à l'affiche Walkley et la nuit des morts vivants. Donc, la première nuit, il y a 26 personnes qui se présentent. La seconde, 24 personnes. Le problème, c'est que Etherhead, les gens, ils comprennent pas. Mais Big Ben, lui, il insiste. Il dit que c'est un rêve sombre, avec des idées troublantes. C'est pas un film qu'on peut regarder en fumant de la Marie-Jeanne. C'est un film de réflexion. Et il faut être seul. On peut pas faire comme des spectacles à la Rocky Horror Picture Show. Non. C'est une expérience qui se vit seule. Même si on est dans une salle de cinéma, ça, ce film, c'est une expérience pour une personne seule. Donc, il faut lutter. Lutter pour que les gens viennent voir ce film. Même le bouche à oreille est mitigé. Il faudra 2 ans de travail pour que, enfin, une certaine reconnaissance. Etherhead va être diffusé dans une dizaine, je crois 17 villes, et même dans certains cinémas, il va rester 4 ans à l'affiche. C'est l'un des derniers des Midnight Movies. El Topo était ésotérique, Walters Underground, The Order They Come accrocheur, Rocky Horror Picture Show commercial et Etherhead unique. Après 77, après la fin du Englin, le phénomène va tomber en 18. Et comme disait Waters, le problème c'est que après les années 70 et après les années 80, on va arriver à une période où les fan clubs vont prendre aussi le pouvoir, notamment on l'a vu avec le phénomène des Star Wars. Et puis le cinéma, voyant que effectivement le genre est accrocheur, va commencer à commercialiser le show. Notamment les Quentin Tarantino et autres vont faire les heures de gloire des grands studios hollywoodiens. On est même arrivé à une période très ironique. Et donc, il est difficile de faire un film ironique dans une période qui l'est. Et c'est ça qui a été un peu le final du Midnight Movies. C'est-à-dire qu'on a pris des films que les studios d'Hollywood ne voulaient pas, que le public de prime abord ne voulait pas voir, on les a placés à minuit et les gens sont venus. Mais ils sont venus aussi parce que c'était des gens qui recherchaient un autre cinéma. Ça, Hollywood l'a compris plus tard. Et notamment aussi les festivals comme Sundance. Et là, ça a marché. Bon, il est vrai qu'il y avait certains produits, il y avait de l'alcool et consorts, mais c'était un autre cinéma. On avait besoin de transgresser des genres, comme dans Pink Flamingo et qui sera tout aussi l'univers de John Waters. On avait besoin de connaître autre chose que les films hollywoodiens, comme El Topo et tout l'univers de Alejandro Jodorowsky. Et puis on avait besoin de connaître un autre cinéma, comme les films de Perry Unzel. Donc c'est vrai que la contribution des Midnight Movies, même si elle a été courte, même pas, on va dire 5-6 ans, c'est qu'elle a permis à des réalisateurs de devenir célèbres. Certains ont mieux réussi que d'autres, notamment David Lynch, qui dès Elephant Man s'est un peu éloigné des Midnight Movies parce qu'il était reconnu par ses pairs et venu dans un cinéma plus genre d'art et d'essai. Mais quand même, il est resté quand même un peu à la Midnight Movies parce que c'est vrai que David Lynch, faut saisir quand même. Donc voilà, chers auditeurs, chères auditrices, voilà ma petite participation au phénomène du Midnight Movies. à ce passage très bref dans l'histoire du cinéma où des gens ont tenté une expérience avec le public, pour le public, et même par le public, d'aller transgresser ce qui était le code du cinéma de l'époque. Mais aussi parce que, à cette période de l'histoire, notamment américaine, c'est que les gens recherchaient autre chose et qu'on leur représentait autre chose. Et c'est ça. C'est ça le Midnight Movies. Donc, il est vrai que à l'heure actuelle, il est difficile de faire du Midnight Movie parce qu'il y a tellement de genres. Entre les Avengers, entre The Tribute, Léviathan, Near Dead Experience et bien d'autres, le cinéma français, ouzbek, iranien, coréen, il y a tellement, et même africain aussi, pourquoi pas, il y a tellement de façons de voir le cinéma qu'effectivement, c'est devenu compliqué quand même de faire un cinéma. Et puis je pense qu'il y a plus, il y a des tabous encore à briser, mais c'est tellement perdu dans la masse que, voilà. On est obligé de faire soit de plus en plus violent, comme l'a fait Mel Gibson. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il l'a fait pour que ce soit plus violent. C'est juste que voilà, ça donnait un côté plus crédible à son histoire. Et puis maintenant, c'est même utilisé. C'est-à-dire qu'on va faire comme Eminem. On va commencer à taper sur les gays pour faire parler. Et puis ce qui fait parler, ben, fait vendre. Voilà. Donc on ne le fait même plus pour le faire, mais surtout pour que ça rapporte. Donc voilà. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, je vais vous laisser avec le groupe Wex Taylor, Que Sera Sera. Hein. Et puis, je vais vous dire à la semaine prochaine où, ben, ma foi, je vous parlerai peut-être, sans doute, à voir, de ce cher Alejandro Jodorowsky. Et forcément, nous reparlerons d'El Topo. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Ciao, ciao. The delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen.
Waiting for us here.
I have something to tell you.
We'll be right back.
motion with the brain stimulation and raising the stakes with a naked sensation.
Inspiration,
like the wax on the table.
Insulation
was wrapped around a cable.
Intonation,
treble bassin.
Devil chaser with the rebel nation.
Heavy crates and the rhyme books near me. Mind's gone weary, but the lines come clearly.
Einstein's theory,
answer to your queries.
We equal MC squared, can you hear me? A state of mind, funky with the rhymes, I'm positively inclined.
The tailor of the wax got the tracks, that's refined.
One of a kind,
sit back and recline.
Sit back and recline. And I'm the G-R-E, E to the N. Me with the pen, read for beats and lines to increase them ends. Soul's been sold, slow your roll, don't fold your scroll. And that gold you hold ain't shit if you don't know. Your own motivation racing to the console. Insert a turn of phrase, last word, law six, initiate. Now shit focus,
cloud shit smokers.
Loud hip hocus, focus through the dopest and I hope this. Quote sets, note this. Console blows and it's just too much to cope with, it's hopeless.
Oh shit, now the ropes rip.
Over the microphone cord, oh lord.
The samurai sword, all aboard. And swarm the stores like some Mongol hordes. Cause it's F to the U and K to the Y. The P to the O, E, T and I fly. The way that we flow on mics is sky high. Keeping no seats free and not a single eye dry.
Yeah, yeah, a state of mind. Funky with the rhymes, I'm positively inclined.
And the tailor of the wax got the tracks, that's refined.
One of a kind.
Sit back and recline.
Sit back and recline.
Development arresting. Developed in the session.
Yeah, yeah, keep it mellow, no aggression.
Making it fresh like a tribe called Quest. Cause we dwelling on this section.
Uh-huh, and if you're swell-headed and stressing,
then leave them fellas in recession.
Fate says go away, yo. Come to the show and check the ASM flow.
And now you know,
a state of mind. Funky with the rhymes are positively inclined.
The tailor of the wax got the tracks, that's refined.
One of a kind.
Sit back and recline.
Yeah, that's right,
a state of mind.
Funky with the rhymes are positively inclined.
I love the smell of napalm in the morning.
Life was like a box of chocolates.